Radio Capi, grand témoin.
Bonjour, je suis Alain Hiron Mouchir. Dans Grand Témoin aujourd'hui, Florence Kizalunga reçoit Moussa Kabwankubi Moïse, gouverneur de la province du Maniema. Ensemble, ils évoquent les grands défis qui attendent le nouveau gouverneur du Maniema, mais également son parcours parsemé d'anecdotes. Tout est à découvrir dans cet entretien. Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous.
Monsieur le gouverneur, bonjour.
Bonjour, Madame Florence.
Vous venez de prendre vos fonctions, vous êtes en plein gouverneur de la province du Maniema. Dites-nous quels sont les défis qui vous attendent aujourd'hui.
Le Maniema a deux grands défis. C'est le défi des infrastructures. Donc, le Maniema est enclavé, il faut le désenclaver. Donc, le premier défi, c'est le défi de la reconstruction, le défi des routes, le défi des infrastructures. Le deuxième défi, à notre avis, c'est le défi sécuritaire. Parce que le Maniema a beaucoup de groupes armés. Nous devons arriver à leur démobilisation pour pacifier la province et ainsi attirer les investisseurs.
Pour vous en sortir, comment est-ce que vous avez planifié ou bien qu'est-ce que vous préconisez, vous, avec votre gouvernement?
En matière de finances publiques, comme vous le savez, madame, les provinces ont trois sources de revenus. C'est d'abord les ressources provenant du pouvoir central, qui représentent dans toutes les provinces une moyenne de 70 à 80%. Vous avez les ressources propres et vous avez les ressources des bailleurs de fonds, qu'on peut appeler les ressources extérieures, les ressources des partenaires techniques et financiers. Nous, notre premier challenge, c'est d'inverser cette structure. Nous, notre challenge, c'est de faire en sorte que les ressources internes, les ressources propres, prennent une grande proportion par rapport aux autres ressources. Ça veut dire que nous voulons avoir les moyens de notre politique. Nous voulons avoir nos ressources propres pour réhabiliter les routes et donc pour désenclaver la province. Et cela passe notamment par ce que nous sommes en train de mettre en œuvre. Nous sommes en train de mener une grande réforme en mettant en place les taxes conventionnelles sur le minerai. Comme vous le savez, le Maniema est une province à vocation minière et agricole. Donc nous sommes en train de mettre en place une taxe conventionnelle. Et je pense, par la grâce de Dieu, d'ici la semaine prochaine, nous pourrions signer un arrêté qui va nous permettre de prélever une quotité sur chaque kilogramme de cassiterie, dont les 3T, les produits miniers de la filière stanifère. Nous allons prélever aussi sur les carburants, comme le fait d'ailleurs bien déjà la province du Nord Kivu. Et nous allons prélever sur d'autres produits, les produits brassicoles, les produits tabacicoles, pour que la province ait des moyens afin d'investir dans les infrastructures. Et cela, ce n'est plus une question de beaucoup de temps. Et nous pensons que dans un mois au maximum, nous allons mettre en place, avec la contribution de toutes les forces vives de la province, c'est-à-dire la société civile, les confessions religieuses, la FEC, dont nous travaillons d'arrache-pied, et dans un mois, ces comptes pourront être opérationnels pour passer à l'action.
Vous comptez beaucoup plus sur les ressources provinciales. Maintenant, là, nous pensons que la DGERMA aura beaucoup à faire et il faut beaucoup de réformes dans cette régie financière de la province. Mais nous constatons que la régie provinciale, la DGERMA, souvent beaucoup de gens pensent que c'est politisé.
La bonne nouvelle que je peux vous annoncer, c'est que au niveau des politiciens, en fait, qu'il s'agisse de l'exécutif provincial ou de l'Assemblée provinciale, tous les acteurs politiques se sont mis d'accord pour dépolitiser la DGERMA. Tout le monde est conscient que c'est la DGERMA qui doit donner des ressources à la province afin de réaliser les actions, afin de mener les réformes. Donc, aussi longtemps que la DGERMA restera politisée, il sera difficile de réaliser cet objectif. À cet égard, nous nous sommes mis d'accord pour mener des réformes en profondeur, d'ailleurs avec l'appui de certains partenaires au développement. Donc, d'ici peu, nous avons écrit au ministre national des Finances pour nous appuyer en termes de réformes parce que nous pensons vraiment que nous devrions mettre en œuvre la stratégie de la décentralisation financière qui a été adoptée au niveau national. À cet effet, nous pensons que au plus haut niveau de la DGRMA, nous devons passer par des recrutements avec les concours de partenaires au développement.
Quand vous parlez de la taxe conventionnelle pour la réhabilitation des routes, c'est quoi cette taxe? C'est une innovation, une nouveauté ou vous voulez l'améliorer pour que cela réponde aux besoins de la province?
Il y a un adage qui dit qu'il ne faut pas réinventer la roue. Nous n'allons pas nous targuer d'avoir créé cette taxe parce que c'est une taxe qui est déjà opérationnelle dans d'autres provinces. C'est le cas par exemple de la province du Nord Kivu qui est peut-être un modèle en termes de réhabilitation de la voirie et d'autres routes sur base des fonds propres, sur base des ressources propres. C'est comme ça que quand nous sommes arrivés, aussitôt que nous avons pris nos fonctions de gouverneur, nous avons dépêché notre ministre provincial des Finances pour s'imprégner, pour échanger les expériences avec la province du Nord Kivu. Et là, nous sommes maintenant outillés pour mettre en œuvre cette réforme. C'est-à-dire, de commun accord avec les acteurs miniers, nous nous sommes mis d'accord, par exemple, de prélever une quotité. Je me réserve de vous citer les montants. Aussi longtemps que l'arrêté n'est pas signé, je me réserve, mais d'ici là, vous serez au courant, peut-être la semaine prochaine. Nous nous sommes mis d'accord de prélever une quotité sur le produit minier de la filière stanifère, donc qu'on appelle communément les 3T, et nous allons prélever aussi sur l'or, nous allons prélever sur les autres produits, et cela va nous permettre, en partenariat avec les banques qui opèrent ici à Kindu, d'avoir beaucoup de moyens, assez de moyens, pour commencer à réhabiliter nos routes, sur fonds propres.
Mais monsieur le gouverneur, il y a beaucoup qui crient sur la fraude minière et vous-même vous avez parlé de ça, de la fraude minière qui vous préoccupe au plus haut niveau. Quel serait l'impact de cette fraude minière sur l'économie de la province?
Nous sommes conscients qu'il existe une fraude minière, pas seulement au Maniema, c'est presque dans toutes les provinces minières du pays. Mais nous sommes un peu méthodiques pour résoudre ce problème. Ce que nous comptons mener, c'est d'abord de dépêcher des équipes conjointes, services des mines, gouvernement provincial, société civile, assemblée provinciale, pour établir un état des lieux de tous les opérateurs miniers de la province du Maniema. Nous devons savoir, du nord au sud, en passant par le centre, qui fait quoi dans la province du Maniema. Combien d'opérateurs miniers avons-nous à Lubutu? Combien nous en avons à Punia? Combien à Kailo? Combien à Pangi? Combien à Kasongo? Combien à Kabambare? Et ainsi de suite. Et après cette mission, les rapports de cette mission vont nourrir une première conférence, une grande conférence que nous comptons organiser à la fin du mois de septembre sur les mines, l'énergie et les infrastructures. Qu'est-ce que nous attendons de cette conférence? Nous attendons de cette conférence d'attirer des grands investisseurs miniers dans la province du Maniema. Parce que, pour votre information, madame, d'après beaucoup d'études, la province du Maniema est la troisième province minière en termes de réserves minières. Mais le paradoxe aujourd'hui, c'est que nous n'avons aucune entreprise minière d'Iran industriel qui est en train d'œuvrer dans la province du Maniema. Et la moralité, c'est que nous n'avons que des artisanaux dont la production et même les ressources sont difficiles à capter, aussi bien par les ETD, par la province, que par le pouvoir central. Donc, nous pensons qu'à l'issue de cette grande conférence que nous comptons organiser au mois de septembre, nous allons attirer trois ou quatre grands investisseurs miniers qui vont investir dans les cuivres du Maniema, dans la cassiterite, dans l'or. Comme ça, avec trois ou quatre grands miniers, quatre grands majors, nous pouvons avoir des partenaires qui peuvent aussi contribuer à l'amélioration des infrastructures de notre province. Du côté de l'énergie, nous avons des contacts très avancés avec certains partenaires. Nous ne pouvons pas encore citer leur nom à ce moment, mais je pense qu'ils pourront déjà dépêcher une mission ici au Maniema pour faire l'état des lieux de la centrale de Lujulukulu à Kalima et de la centrale d'Amboué à Kailo. Notre challenge, l'objectif que nous nous fixons, c'est, dans la mesure du possible, par la grâce de Dieu, d'électrifier la ville de Kindu. Et du côté des infrastructures, on en a déjà beaucoup parlé. Notre challenge, c'est de nous ouvrir aux six provinces avec lesquelles nous avons des limites.
Le gouverneur, avec cette conférence sur les mines, les infrastructures, ça sera aussi l'occasion de parler des Namoya Mining qui existe, Banro.
Nous allons parler de Banro. On avait déjà des contacts préliminaires avec quelques partenaires à Kinshasa sur Banro. Et il y aura beaucoup qui vont venir parce que l'idée pour nous par rapport à Banro, et je pense que c'est le point de vue de la majorité de la population du Maniema. La finalité pour nous, c'est pas que ça soit seulement Banro ou qui que ce soit. L'idée, c'est que nous ayons une entreprise de grande envergure qui puisse exploiter les mines de Namoya. Parce que, je peux vous rappeler, peut-être vous le savez mieux que moi, quand Banro était opérationnel, la route Kindu-Bukavu était opérationnelle. Donc, les produits manufacturés coûtaient moins cher et c'est le problème de l'enclavement de notre province. Pour votre information, un sac de 50 kilos de ciment revient à $35. Il y a des moments où ça coûte $50 le sac, alors qu'à Kinshasa, c'est à 10-11$ et au Katanga, c'est maintenant à 10-8$. Mais ici, nous achetons un sac de ciment à $35. Donc, notre challenge, c'est d'ouvrir la province afin que les produits de première nécessité puissent être à la portée de tout le monde.
Parlant toujours de la fraude minière, quelles sont les matières qui passent par la contrebande?
C'est presque toutes les matières, surtout l'or, parce que déjà, un kilo d'or, on peut le mettre dans une poche, c'est surtout l'or, même la cassiterite, les diamants. Il y a des gens qui produisent déjà du cuivre de manière clandestine. Donc nous voulons mettre de l'ordre dans tous ces secteurs afin que les minéraux du Maniema puissent en premier lieu profiter aux enfants du Maniema.
Maniema, 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 Maniema.
Maniema, solidarité kambelembele. Carte sim ya kote. Tujenge kwetu. Umoja ni nguvu.
Maniema, 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 Maniema njo kwete.
Les rassembleurs, Docteur Kiko Penejase. 001
Kamele mele mulume chalene choka ilungula upinu kama kia Maniema kutoke boye.
Maniema, 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 Maniema,
Mkubwa John Kisubi.
Kwetu njo Maniema, kwetu njo Maniema, kwetu njo Maniema, Maniema kutoke boye.
Dr. Andre Kaleba Le patriarche Alexis Tambwe Mwamba.
Kila mtu na kwabo, kila mtu na kwabo, kila mtu na kwabo. Kwetu njo Maniema.
La stabilité de l'économie, Excellence Jean-Marie Kalumba.
ambassadeur Thomas Saidi.
Docteur Kiko Penekese, honorable Bukanga Riba, honorable Cholo Kobate, Kwenunjo Manyema.
Le financier Salomon Escadela, Mokuba Jeff Chomba Fariala, Jeff Swedi Mindo Anastaili, Mokuba Gabriel Bilungi.
Choma Manyema yeta tupenda vita, atupende ubaguzi, tukuwe pamoja, tuendeleshe Manyema yetu.
Senga Omari David,
Excellence Lukunji, honorable Kokonyanga, honorable Makengo, Saina Enea, Adolfine Kamanga, Mwekwete, Directeur Jérôme Assoumani, Ingénieur Serge Leteta, Mukuba Pamphile Tambe, Kwabo Namutu, Nibwabo Namutu. Pepe fidèle et romantique, son injeka. Eh, Pepe, Mama, Chibombo Kasongo Kabambare, eh, Kailo Pangi Punya, Lubutu, Kalunguli, Mikelenge, Kasuku. Kinduville, Kweube,
Maître Jiste Kamango Tabena 007, l'ingénieur de son le plus musical, DJ Faz de Papa na Keina.
Tunde kala sange, tunde kala sange, tu kamune ya nonda. Honorable Germain, Maître Adolphe, Hakili Mali, Godard Bilenge, Kwetu Nipaka Kwetu, Manyema, Kukyatu Djanga Kwetu, Beris Elemani, Maître Grand, Raphaël Loulou,
Docteur Jérôme Mbonyange, anti-Covid, Maître Aloïse Kitinga, antivirus. Come on, 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 come on
meke. Sukuma dambo, sukuma, 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 sukuma. Cha 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 cha. Yemo, sukumi, sukuma, sukuma.
Osteloanga,
sukuma, sukuma.
Melo Swamel, Chicha da Koto, DJ Mille Ungu, Aoki Mama, Maître César, Samu,
Sukuma Dermo, Sukuma, 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 Sukuma,
Cha, 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 Cha,
Sukumi, Sukuma, Sukuma, Sukuma,
Le grand témoin.
Okapi. Mesdames et messieurs, si vous nous captez en cours de diffusion, grand témoin reçoit aujourd'hui les gouverneurs de la province du Maniema, Monsieur Moussa Kabankoubi Moïse. Avec lui, nous parlons de l'état de la province d'Imanima. Monsieur le gouverneur, là, vous venez de parler de la première partie de votre défi. Vous avez aussi évoqué parmi les défis la sécurité de la province d'Imanima. Que comptez-vous faire pour qu'il y ait sécurité, surtout dans la partie sud de la province?
Dans la partie sud de la province, il y a de l'insécurité dit à la présence des groupes armés, précisément à Kabambaré et à Kasongo. Là, il y a 2-3 jours, nous venions de dépêcher une mission de pacification à Kasongo parce qu'il y avait tiraillement entre des fractions armées dans les territoires de Kasongo. Et je pense qu'aujourd'hui, notre équipe sera déjà en contact avec les 2 fractions. Et il y a une autre mission de pacification à Kabambaré. Ça, ce sont les initiatives au niveau provincial. Alors, au niveau national, nous étions en contact avec les programmes de mobilisation. Nous allons renouer, parce qu'il y a eu des changements au niveau de la coordination de cette secteur. Nous allons renouer avec la nouvelle équipe, parce que la finalité, vous devez le savoir, c'est qu'il faut qu'on arrive à démobiliser les groupes armés, qu'il y ait de la paix, qu'il y ait la libre circulation des personnes et de leurs biens dans tous les territoires du Maniema. C'est ce qui va nous attirer les investisseurs dans notre province.
Êtes-vous sûr de ce que vous allez faire, étant donné que celui qui était avant vous, votre prédécesseur, Afan Idrissa Mangala, était parti sur le même lancer, si je peux le dire, même en organisant une caravane de paix, mais qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas donné. Il y a aussi, comme vous venez de parler, des PDDCRCS. Il y a eu de ces miliciens Maïmaï qui étaient prêts à déposer les armes, mais ils attendent toujours jusqu'à quand ce programme sera à des mises dans la province.
Comme je venais de vous le dire, il y a 3 intervenants majeurs. Il y a le gouvernement central qui doit s'occuper de la démobilisation et le gouvernement a assez d'outils à cet effet. Il y a la province, ce sont les initiatives que nous menons. Et il y a même la communauté, parce que la mission que nous avons dépêchée dans cette équipe-là, vous avez la société civile, vous avez les confessions religieuses, vous avez... Parce que ces miliciens, ils ne sont pas venus du ciel, ce sont les fils d'Imaniema. Et ceux qui sont partis là, ce sont leurs frères, ce sont leurs sœurs, qui vont leur parler pour leur dire que la province a besoin de la paix, la province a besoin du développement.
Ici, dans la ville, il y a aussi les groupes de jeunes qui se réunissent dans ce qui s'appelle base. Ce système de base crée l'insécurité dans la ville de Kindu. Vous êtes aussi conscient parce que vous vivez. Comment comptez-vous éradiquer ces mouvements dans la ville?
Les informations à notre possession font état de l'existence de ces bases avant la tenue des élections de 2023. ces bases étaient entretenues par des politiciens, nous ne voyons pas des raisons de l'existence encore de ces bases. Alors, là, nous avons des piliers. Le premier pilier, c'est la sensibilisation. D'ici là, nous allons faire de l'itinérance d'abord au niveau de la ville de Kindu, c'est-à-dire nous allons visiter la commune de Kasuku, la commune de Mikelenge, la commune d'Alungoli, et nous allons échanger avec les jeunes pour leur dire qu'ils doivent abandonner la voie sur laquelle ils se sont lancés. Et la deuxième étape, ça sera le châtiment. Ceux qui ne vont pas obéir, nous serons obligés d'utiliser la force de la loi.
Vous ne pensez pas que tout ça, il y a certains qui le font, c'est par manque d'occupation. Les taux de chômage est élevé dans la province. Est-ce que vous avez une idée ou bien vous allez vous lancer aussi dans l'entrepreneuriat, comment créer des centres d'encadrement, des formations de ces jeunes pour leur occupation?
Le chômage, ce n'est pas seulement dans les centres d'entrepreneuriat, d'encadrement des jeunes. La lutte contre le chômage, c'est un grand programme. Quand je vous parle de la réhabilitation des routes, on aura besoin de la main-d'œuvre et cette main-d'œuvre proviendra en grande partie de la jeunesse. Donc, lorsque nous sommes en train d'ouvrir les routes, et nous sommes aussi en train de lutter contre le chômage. Il y a beaucoup d'aspects dans la lutte contre le chômage. C'est pourquoi nous pensons que les jeunes ont l'obligation de soutenir nos différentes initiatives qui vont déboucher sur la création de beaucoup d'emplois et donc de la lutte contre la pauvreté et le chômage.
La ville fait aussi face, et la population, votre population, à ce qui concerne l'eau, l'utilisation de l'eau propre dans la province, dans la ville, parlons de la ville, pour ne pas parler de la province, c'est un peu compliqué partout. Vous êtes au courant que la desserte en eau potable pose problème. La régie des eaux n'arrive pas à desservir toute la ville. Quelle politique le gouvernement provincial a pour résoudre ces problèmes? Parce qu'on a toujours dit que l'eau, c'est la vie.
L'eau, c'est la vie, je suis d'accord avec vous. Nous pensons que lorsque nous résolvons le problème de l'électricité, ça va de soi. Nous allons également résoudre de manière durable le problème de la desserte en eau. Parce que sans électricité, Madame Florence, ça sera difficile de desservir une grande ville comme ça. Aujourd'hui, il y a des moyens du bord. Je suis en train de voir que les gens sont en train de faire des forages. Mais les forages ont aussi leurs inconvénients. Mais la solution durable, à notre avis, passe par l'électrification de la ville de Kindu.
Monsieur le gouverneur, si on peut parler un peu du social de votre population, si vous entrez dans les marchés, vous vous rendrez compte que aujourd'hui les sombés, une botte, ça s'achète à 500 francs, 700, voire même 1000 francs. Avec un coût vraiment très élevé, il y a les produits des premières nécessités, il y a des flambées des prix. Les opérateurs économiques crient par-ci, par-là, les taxes qui la dépassent. Je ne sais pas comment est-ce que vous pensez améliorer les sociales de la population.
Les sociales de la population, c'est vraiment un challenge, mais je pense que nous avions déjà commencé à le faire. Donc, en éliminant déjà des barrières, en ramenant les nombres de barrières d'environ 200 à 58, nous avons commencé à résoudre les problèmes du social de la population. Nous n'allons pas nous limiter là-bas. Nous savons que il y a le problème des routes. Lorsque, en plus des barrières, nous résolvons les problèmes des routes, c'est-à-dire nous résolvons les problèmes d'approvisionnement de la province du Maniema, vous allez voir que les prix vont commencer à baisser. Mais nous n'allons pas aussi nous limiter là. Nous allons relancer la production agricole dans la province du Maniema. C'est pourquoi nous nous permettons de vous annoncer ici qu'à la fin du mois d'octobre, nous comptons aussi organiser une grande conférence sur la relance de l'agriculture et l'environnement. Qu'est-ce que nous attendons de cette conférence? Nous attendons de cette conférence d'avoir des projets bancables. Parce que nous ne voulons pas organiser des conférences académiques où on a beaucoup de résolutions et on les met dans les tiroirs. Nous, notre méthodologie, c'est d'organiser des conférences à l'issue desquelles on peut avoir 5-6 projets bancables Et quand on les réalise, on résout beaucoup de problèmes en termes d'emploi, en termes de lutte contre la pauvreté. Pour votre information, madame, dans notre pays, il y a déjà des provinces qui profitent de la vente de leur crédit carbone. Le Maniema a des vastes étendues de forêts, mais n'a jamais bénéficié de la vente de ses crédits carbone. Et tel que nous sommes en train de travailler avec nos équipes, je crois d'ici l'année prochaine, nous aurons des projets, nous aurons des partenaires qui vont nous aider à ce que nous puissions gagner de manière substantielle des fonds dans la vente de nos crédits carbone également.
Et que pensez-vous de l'éducation des enfants?
L'éducation, nous pensons, bon, nous en économie on appelle ça le capital humain, parce que la productivité d'un homme éduqué est élevée, ça c'est démontré par l'économie, et de loin plus élevée que la productivité d'un homme qui n'a pas d'éducation. Donc nous pensons que l'éducation c'est le socle, c'est la base même du développement. Pour votre information, nous avons des piliers majeurs dans l'éducation. Du côté de l'offre de l'éducation, nous allons, avec les fonds qui est appelé ici, entre guillemets, frais de solidarité, nous allons voir comment bancariser ça et que nous puissions améliorer l'offre de l'éducation en termes de construction des écoles, des tôles, des briques, par-ci par-là. De l'autre côté, du côté de la demande de l'éducation, nous sommes en train de voir comment améliorer les taux de scolarité des enfants. Donc, pousser le maximum d'enfants, le maximum de jeunes à l'éducation. Mais surtout, n'oublions pas les côtés qualité. Parce que c'est bien d'avoir des diplômés, mais ce qui est plus important, c'est la qualité des ces diplômes-là.
Monsieur le gouverneur, nous allons entamer la deuxième partie de cette émission, vous concernant vous-même. Qui est Moussa Kabankoubi? Quel genre d'enfant étiez-vous?
Moussa Kabankoubi, c'est le gouverneur du Maniema. Il a fait ses études primaires à Kalima, à l'EP Moussoukou. En fait, j'ai obtenu mon certificat à l'école primaire Moussoukou de Kalima. J'ai obtenu mon diplôme d'état aussi en biologie et chimie à l'Institut Moussoukou. J'ai fait le premier graduat ici à Kindu, la première promotion de l'IEC Kindu. Et après une année, j'ai abandonné, je suis allé à Kinshasa pour reprendre l'économie à la faculté des sciences économiques de l'Université de Kinshasa. Donc, aujourd'hui, Moussa Kabankoubi est doctorant en économie. Sinon, en licence, j'ai fait l'économie quantitative, communément appelée économie mathématique.
La province du Maniema a la chance d'avoir à sa tête un économiste. Est-ce qu'on peut espérer beaucoup de vous, monsieur le gouverneur?
Je crois que le plus important, ce n'est pas peut-être ces diplômes-là. Peut-être ce qui est plus important, c'est aussi la petite expérience que nous avons.
Justement, avant d'être aujourd'hui gouverneur, est-ce qu'on peut avoir l'histoire de Moussa Kabankoubi? Il était qui avant d'arriver à la tête de la province du Maniema, de l'exécutif provincial?
Aussitôt, j'ai terminé mes études en 2002 à l'Université de Kinshasa. J'ai été engagé à la fonction publique, à la direction de préparation et du suivi du budget, qu'on appelait jadis DPSB. En 2003 déjà, j'étais au cabinet finance comme assistant du directeur de cabinet du ministre des Finances. Et ce directeur de cabinet-là n'est autre que l'honorable Justin Kalumba. Donc moi, j'ai été son assistant en 2003, ça fait 21 ans, assistant du directeur de cabinet. Après là-bas, je suis parti au ministère du plan. Nous avons été dans l'équipe qui a rédigé les DSRP, les documents de stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté des deuxième génération au ministère du plan. J'ai été consultant au PNUD. J'ai travaillé dans quelques projets de la Banque mondiale. Et après, je suis allé comme conseiller au ministère du budget, conseiller en charge des dépenses des luttes contre la pauvreté, et puis conseiller en charge des dépenses communes. Et après, je suis allé au ministère des Transports comme conseiller financier du ministre des Transports pendant plus de 4-5 ans. Après, je suis allé au ministère des PME comme conseiller financier et puis directeur des cabinets. Après, j'étais aussi conseiller financier à la décentralisation. Et entre-temps, je faisais mon doctorat en économie. Donc, vous voyez que nous avons quand même une petite expérience dans la gestion de la chose publique.
Vraiment, avec beaucoup d'expérience dans la gestion de la chose publique. Monsieur le gouverneur, quels souvenirs gardez-vous de votre enfance? Si au besoin, vous pouvez nous parler de vos jeux préférés et durant l'enfance, en nous rappelant aussi quelques noms d'amis d'enfance.
L'enfance, moi en tout cas, je dois avouer que j'ai eu une enfance difficile. Moi, je n'ai pas grandi en ville. Je suis vraiment, si on peut appeler ça, un villageois. Moi, j'ai grandi à, comme je vous ai dit, j'ai fait mes études à Kalima, mais avant cela, on était à 35 kilomètres de Kalima, à Isongo. Donc, je me rappelle encore quand j'étais en quatrième primaire, je faisais plus de 12 kilomètres par jour, donc 6 kilomètres à l'aller, 6 kilomètres au retour à pied. Et même quand on était à Kalima, même à l'école secondaire, il n'y avait pas encore beaucoup d'écoles à l'époque. Nous quittions Kakutia pour aller à l'Institut Moussoukou. Je crois que c'est environ aussi 5 à 6 kilomètres. Et un moment, en deuxième, parce que là j'étais chez ma grande sœur, en deuxième secondaire, un moment j'ai quitté Kalima, je suis venu à Kalema, c'était à peu près plus de 10 ou 12 kilomètres que je devais faire chaque jour aller et retour. Chaque jour. Ce n'était pas facile, mais je peux dire seulement que c'est une grâce parce qu'on a beaucoup de collègues qui n'avaient pas pu et qui avaient abandonné en cours de route. Ouais.
Les noms de vos amis d'enfance, quelques noms seulement, je sais qu'ils sont nombreux.
Ils sont nombreux, je ne sais pas si je vais encore me rappeler. Je vois Shindan Omuntu, il y avait Impala Laini, j'ai oublié.
Ça devient difficile. En tout cas,
collègues de l'université, oui, on s'en souvient encore, mais à l'école primaire, voilà les deux là, école primaire et secondaire, les deux là, oui. Waseka, oui, Waseka Kasumbi, il est avocat ici. Lundimu Kangolingoli, on a été dans notre maquis en sixième. Oui, je me rappelle. Voilà.
Quels ont été les souvenirs, les mauvais souvenirs que vous gardez de votre enfance?
Les mauvais souvenirs de mon enfance. En quel terme?
Oui, c'est ça ce qui vous a marqué négativement dans votre enfance, avant de parler de ce qui vous a marqué positivement.
Ce qui m'a marqué négativement, c'est déjà ce que je vous ai dit, parce que moi je vois mes enfants à Kinshasa pour aller à l'école, ils sont véhiculés, mais quand ils sortent, ils vous disent « Papa, on a besoin de transport, mais vous avez une voiture. » Mais moi, je pouvais faire 10 kilomètres, aller et retour, et personne ne vous demande même pas si qu'est-ce que vous allez manger. Donc, moi, je pense que ça, c'est un mauvais souvenir. Et parce qu'on a eu de l'espoir, peut-être, je peux dire que c'est même une grâce dédiée pour résister dans des conditions comme ça, que moi, je qualifie même des conditions extrêmes. Comme vous savez, chez nous, la pluviométrie, c'est chaque jour, 2-3 jours qu'il pouvait pleuvoir. Et peut-être que vous aviez seulement laissé l'uniforme là. Vous êtes mouillé, vous devez sécher. Donc, c'est pas facile.
Et en cela, quel est le bon souvenir alors de votre enfance?
Les bons souvenirs de mon enfance, j'avais toujours des amis et avec qui on s'encourageait, on se donnait de l'espoir et voilà comment nous sommes là où nous sommes aujourd'hui.
Et quels sont vos jeux préférés?
Les jeux préférés, c'est plus le football. Mmh. Ah oui, le football.
Mmh. Ami du ballon rond.
Ami du ballon rond. Ami du Real de Madrid.
Ami du Real Madrid, wow. Et ça, c'est du niveau monde et au pays?
Au pays, bon, malheureusement, moi, c'est seulement le Real de Madrid.
Qu'est-ce que vous avez trouvé dans le Real Madrid pour attirer votre attention?
C'est une équipe qui a toujours l'ambition de vaincre, quelle que soit la situation. Et moi, je suis comme ça dans la vie. Quelle que soit la situation, je sais toujours que je peux atteindre mes objectifs. Et je dois les atteindre. Et voilà, aujourd'hui, si nous sommes là, c'est cette idée-là, cette idée de vaincre, cette idée de toujours réaliser ce qu'on veut avec la grâce de Dieu.
Comme on parle encore de vous, quel genre d'enfant étiez-vous? Vous étiez un brigand ou bien un enfant gentil? Hein? Comment est-ce que vous étiez?
Je pense, sans me prétendre, je pense que j'étais un enfant gentil. On disait même que j'étais mou. J'étais trop mou.
J'étais... Les parents n'ont pas vraiment cassé des têtes.
Non. Moi, je n'ai pas cassé. En tout cas, j'étais mou pour illustrer cela. Je n'ai pas présenté des fiancés chez les parents. J'ai présenté ma seule fiancée, donc ma seule épouse, la mère de mes enfants, une seule fois. Et d'autres, il y en a qui présentent 3-4. Moi, j'ai présenté seulement mon épouse une seule fois. Et on est avec elle. On a 6 enfants, 5 garçons et une fille. Voilà.
Et c'est l'occasion de nous parler aussi, de nous présenter c'est qui cette dame-là qui a vraiment gagné la confiance du gouverneur.
Elle s'appelle Bampa Mengelisi. Voilà, la mère de mes enfants. Je considère que c'est une vie privée. Je ne vais pas trop loin que ça.
Radio Capi, grand témoin.
Nous tendons presque vers la fin de notre mission. Grand témoin reçoit aujourd'hui, monsieur le gouverneur, Moussa Kabankoubi Moïse. Monsieur le gouverneur, quelle chanson vous préférez?
Chanson, je vais vous surprendre peut-être. C'est la chanson... Des louanges, là. Comment on appelle? J'ai oublié le titre, sinon ma chanson préférée, c'est pendant l'adoration. Quand on entonne cette chanson-là, ça me fait même la chair d'épaule. J'ai oublié le titre, mais, parce que je suis catholique, hein, peut-être que je ne voulais pas dire. Tofu kama, toku misa, Yezu mobi kisi, tope saye, Lokumu Yenzambe Mokonzi.
On dirait que vous êtes aussi chanteur à l'église.
Oh non, pas du tout là.
Mais vous avez bien chanté, monsieur.
Je ne crois pas du tout.
Merci beaucoup. Pour terminer, alors vous allez nous raconter les bêtises que vous avez commis, les mauvais alors dans votre jeunesse.
Dans ma jeunesse, bon, comme moi je vous ai dit, j'étais trop carré, hein. En fait, déjà, je me rappelle de ma maman qui me disait, quand elle était partie chez son oncle, qui était une notabilité, j'avais 3-4 ans, et quand son oncle là m'avait porté, il avait dit à ma maman, non, il faut bien garder cet enfant. Je vois dans lui que ça sera un... Donc, moi déjà, je ne commettais pas beaucoup de bêtises. C'est pourquoi je suis trop rigoureux même avec les enfants. Quand ils commettent des bêtises, moi je dis, mais moi je n'étais pas comme ça quand j'étais enfant. Donc les bêtises, peut-être, mais je ne me rappelle pas. J'étais un enfant modèle, si on peut le dire. J'étais un enfant modèle.
Est-ce que les parents sont encore en vie ou bien ils sont déjà décédés?
Oui, ma maman est morte en 2014, ça fait pratiquement 10 ans et 4 mois. Par contre, mon papa est encore en vie, il est à Kalima. C'est ici l'occasion de rendre hommage à mes parents, à ma mère, qui est morte il y a déjà 10 ans. Elle est morte en avril 2014. Et à mon père, qui est vivant, que je vais d'ailleurs croiser à Kalima à l'occasion de ma visite d'itinérance à Pangui à la fin de ce mois.
Pour terminer, monsieur le gouverneur, nous sommes dans la province d'Imanema. Il y a des jeunes qui ont désespéré, qui ont perdu d'espoir, qui ne savent plus quoi faire. Est-ce que vous pouvez avoir un message de réconfort, un message de consolation, un message d'encouragement à tous ces jeunes, à toute la population d'Imanema qui vous suivent en ce moment?
Mon message le plus ardent, mon message ne peut porter que sur l'espoir. C'est un message d'espoir. Je dois leur rappeler une petite histoire de Martin Luther King qui avait crié sous la domination de l'homme blanc aux États-Unis. Et il avait crié déjà à son époque que un jour, il y aurait un noir qui serait président des États-Unis. Et à l'époque-là, beaucoup de gens le prenaient pour un fou. Il avait de l'espoir, il avait de la conviction, il avait surtout de la foi. Et nous avons vu que Barack Obama a été élu président des États-Unis et il est peut-être le meilleur président que les États-Unis aient eu. Aujourd'hui encore, Kamala Harris peut-être est sur le point de devenir encore président des États-Unis. Cette fois-là, une noire, mais en plus une femme. Donc notre message, c'est un message d'espoir. Qu'ils aient la foi dans ce qu'ils font. Et nous sommes là pour changer leur vie. Et ensemble, nous pouvons. Comme disait Barack Obama, yes, we can. Nous sommes convaincus que nous allons changer leurs conditions de vie. Et je lance ce même message à nos frères qui sont dans les groupes armés pour leur dire que ils ont tenté ce qu'ils ont tenté. Je ne crois pas qu'ils aient gagné grand-chose. C'est encore un message pour les appeler de déposer les armes pour que nous puissions, nous tous, travailler ensemble dans la confiance, dans la concorde pour le développement de notre province. Ensemble, nous pouvons changer la physionomie, nous pouvons changer notre province. Et nous sommes convaincus que avec l'appui de Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son appui depuis notre investiture jusqu'à aujourd'hui, nous sommes convaincus que nous allons faire beaucoup de bonnes choses pour notre province.
Monsieur le gouverneur, nous vous voyons du matin au soir ici au bureau et dans tout ce que vous parlez ici. Comment est-ce que vous allez réaliser tout ça? Vous allez descendre quand sur terrain pour se rendre compte de tout ce que vous faites?
Déjà, à la fin de ce mois, nous serons dans le territoire de Pangui et le territoire de Kailo. Donc, nous allons commencer notre itinérance par Pangui et Kailo. Mais avant cela, nous allons visiter nos trois communes, les trois communes de la ville de Kindu, c'est-à-dire Kasuku, Mikelenge et Alungoli. Et après la conférence sur les mines, l'énergie et les infrastructures, nous pensons que nous irons visiter Lubutu et Punia pour terminer par les CID, c'est-à-dire Kibombo, Kasongo et Kabambare. Parce que nous, notre mode de travail, c'est la gestion axée sur les résultats. Et les outils de la gestion axée sur les résultats, c'est notamment des feuilles de route, des indicateurs et des cibles. Donc, nous introduisons vraiment de nouvelles méthodes de travail où chaque ministre devra faire un état des lieux complet de son secteur. L'état des lieux, pour nous, ça ne veut pas dire combien de tables, combien de chaises. L'état des lieux, c'est de dégager les problèmes majeurs du secteur. Et comme on dit en planification, de l'arbre à problème à l'arbre à solution. À partir des grands problèmes du secteur, comment formuler des objectifs et des mesures afin de définir les actions qui vont changer le quotidien de la population.
Monsieur le gouverneur Moussa Kabankoubi Moïse, merci de nous avoir ici dans cet entretien.
Merci, Madame Florence.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Présentation Florence Kizalunga, réalisation et coordination Alain Irung Mouchige, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission ainsi que plusieurs autres numéros de Grand Témoin en allant sur www.radiokapi.net. Bonne suite et programme sur la fréquence de la paix. Au revoir.